Hors Case, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.
Bonsoir et bienvenue dans notre émission Hors Case qui aborde des thématiques LGBTQIA+, des questions d'orientation sexuelle et de genre, mais pas seulement.
Bonsoir, nous allons parler du podcast Quel genre de violence, produit par l'association Telle Quelle et qui comprend actuellement deux épisodes, le départ et le commencement. Ce soir, nous allons parler de l'épisode 2, le commencement.
Oui, mais le commencement,
oui,
quoi,
le commencement.
De l'amour ou de la violence?
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 Pour comprendre le pourquoi du podcast sur cette thématique, il faut savoir que depuis des années, l'ASBL Telle Quelle travaille sur les violences entre partenaires intimes LGBTQIA+, outre que, évidemment, défendre les droits et les libertés de ces populations. Une première étude a été publiée en 2023, quantitative, avec des données des cadrages sur le phénomène. Et par la suite, des outils concrets ont été créés par des groupes de bénévoles. Le premier outil, c'est un outil de détection des violences, des dynamiques de violence dans une relation violente. Et le deuxième outil, c'est un site internet, c'est de la violence.be, auquel j'ai apporté aussi ma contribution. Plus tard, des études qualitatives sont venues nuancer les données de cadrage du quantitatif et ont porté plutôt sur la demande d'aide. Et actuellement, le projet Bénévolat se prolonge avec ce podcast.
Un podcast sur les violences entre partenaires intimes non hétéros et non cis permet de parler d'une violence invisible et d'un sentiment d'illégitimité des personnes ayant vécu ces violences, qu'elles soient psychologiques, physiques, sexuelles, administratives, financières ou autres. C'est également un moyen pour visibiliser ces actes et ces comportements violents commis par des partenaires intimes, actuels ou anciens. Le podcast est le projet de plusieurs personnes ayant vécu des violences et qui veulent briser le silence, briser le voile d'invisibilité et s'exprimer.
Et là maintenant, moi, je vous propose un petit tour de table. Qui êtes-vous? Quelles sont vos motivations?
Bonsoir, je m'appelle Cécilia. Je suis survivante de violences dans une relation lesbienne. Et je réalise actuellement aussi une thèse sur la thématique des violences entre partenaires intimes LGBTQIA+, analysée du point de vue de la prise en charge du secteur psychomédico-social de Bruxelles. Donc mes motivations pour participer au podcast sont diverses et variées. Principalement, je me suis intéressée aux activités des Telle Quelle quand j'ai réalisé mon mémoire en 2021-22 à propos des violences entre lesbiennes. Et puis, tout doucement, j'ai en fait découvert les activités de bénévolat et j'ai retrouvé un groupe très soudé de survivants-survivantes. Et ça a été... une belle découverte. Du coup, voilà, je dirais que d'abord, il y avait une motivation professionnelle, puis une motivation privée qui s'est installée, qui m'a aussi aidée à conscientiser ce que j'avais vécu moi-même. Je passe la parole à mes autres camarades.
Bonsoir, moi c'est Amande. Je suis survivante de violence dans une relation lesbienne également et experte de vécu sur la thématique. Ma motivation principale pour le podcast est de pouvoir dire à voix haute, littéralement, les violences passées sous silence. Des violences mises sous silence au sein de la relation violente, mais aussi au sein de notre société lesbophobe, LGBTophobe. Une autre motivation est de pouvoir rencontrer d'autres personnes avec qui nos vécus résonnent. Des personnes à qui il ne faut pas expliquer pour être compris.
Bonsoir, moi c'est David. Alors, je suis un survivant d'une relation entre hommes. J'ai choisi de participer à cette aventure pour pouvoir donner de la visibilité à une problématique trop souvent cachée. Je voudrais témoigner vraiment pour que d'autres victimes gardent espoir et puissent sortir de leur situation.
Valérie, moi je suis animatrice de l'atelier podcast et je travaille au Tel Quel.
Et moi c'est Déborah. Co-animatrice de l'atelier et qui fait la technique aujourd'hui.
Merci à toutes les deux.
Merci à vous.
Alors, quelles sont les thématiques qui sont abordées ici dans cet épisode 2? Donc, rappel, il y a eu un épisode 1, ici donc l'épisode 2, c'est le commencement. Comment pouvez-vous savoir que c'est à ce moment-là qu'il y a un instant T où ça a commencé et qu'est-ce qui a été le plus difficile à nommer?
Alors en fait, moi je pense que ça prend vraiment du temps pour réaliser que la relation conte de fées qu'on avait imaginée est en réalité une relation toxique et violente, et que vous n'êtes pas vraiment dans un mauvais jour, mais que c'est vraiment la violence au quotidien qui va s'installer.
Pour moi, bah, malgré le titre qui semble plutôt évocateur, hein, le commencement, je pense que pour parler pour tout le monde, je pense qu'il a été assez difficile pour chacun, chacune d'entre nous de pouvoir identifier justement le début des violences. Ce qu'on a réalisé par contre au fil des échanges et de la création de l'épisode, c'est qu'il y a une sorte de cadre qui est établi, et ce depuis le début de la relation, par la partenaire violent. Ce sont des petites choses, des red flags, comme on les appelle aujourd'hui, qui sont implantées dès le début de la relation, et ce, par l'abuseur. Et ces petits red flags, en fait, vont aller crescendo. L'abuseur va aller en douceur, si je puis dire, en tout cas petit à petit, pour faire avaler toujours plus à la victime, toujours plus gros. Et c'est justement ça qui rend difficile de distinguer un début. Car en tant que victime, on est à l'intérieur de la relation, mais aussi, comme ce cadre s'installe de manière insidieuse, il ne fait pas tirer la sonnette d'alarme en nous. Ça me rappelle aussi cette citation de Bojack Horseman, qui dit que lorsque vous regardez quelqu'un à travers des lunettes roses, tous les drapeaux rouges ressemblent à des drapeaux. En fait, le concept de red flag qui est très utilisé aujourd'hui, il n'est pas si binaire que ça. C'est pas juste un danger qu'on identifie immédiatement, mais c'est plutôt une perception qui est donc variable pour chacun et chacune. C'est pas qu'on ne voit pas le red flag quand on est dans une relation violente, c'est qu'on le voit, mais sans lui attribuer sa fonction de signal, en fait.
Oui, j'ai rejoint totalement ce que Amande dit. Moi aussi, je crois qu'il n'y a pas un vrai début, un vrai commencement dès la violence. Les études montrent aussi que c'est quelque chose qui s'installe dès le départ et qui est conscientisé plutôt après que la relation est terminée, donc à la fin. Et c'est pour ça que je voulais aussi rappeler à toutes les personnes qui, limite, peuvent subir des violences en ce moment ou qui ont vécu des violences dans une relation LGBT ou même pas, même hétéro, qu'il ne faut pas non plus se blâmer ou se sentir coupable quand une relation violente se termine et penser que « Ah, mais j'étais tellement bête, j'ai pas vu ça, je l'ai pas vu venir », parce que souvent, la conscience, on l'a a posteriori. Et c'est ça aussi qui rend les choses difficiles et le décodage des violences difficiles.
Et qu'est-ce qu'il faut pour se raconter? Est-ce qu'il y a des difficultés pour se raconter?
Pour moi, la difficulté de se raconter tient dans le risque aussi que les partenaires partagent le même réseau. Simplement, on le sait, la Belgique, Bruxelles sont très petites, mais aussi la communauté au sein de celle-ci, communauté LGBT et queer, et a priori, moi pour le coup, c'était la communauté lesbienne, sont vraiment très petites. Je pense que si vous connaissez deux lesbiennes, vous connaissez à peu près toute la communauté à Bruxelles. je l'avais déjà dit, mais donc c'était ma première relation queer à l'époque. Et comment rentrer après dans le monde queer si en fait la seule connaissance qu'on a de ça, c'est par une personne violente, par un partenaire ou un ancien partenaire violent. On risque de recroiser cette personne, on risque de recroiser des amis, enfin voilà, c'est vraiment un monde qui est très très petit, et donc il y a vraiment un conflit de réseau social et un conflit de loyauté qui se pose à ce niveau-là.
Oui, complètement, et justement dans des études, dont une étude que je réalise en ce moment avec des collègues auxquels je passe le bonjour, font littéralement écho à ce que tu viens de dire. Justement, il semblerait qu'un double silence protecteur s'installe pour justement d'une part éviter des dynamiques intergroupes se mettre en place, et de l'autre côté pour parfois aussi protéger une communauté qui est déjà fragilisée à l'échelle sociétale, et donc ne pas vouloir ternir à l'image des personnes LGBT qui de base sont déjà fortement stigmatisées, et j'ajouterais beaucoup plus en ce moment historique.
Voilà, moi je dirais plutôt que la plus grande difficulté que j'ai eue, étant donné que cette relation date quand même de 20 ans maintenant, c'était de me replonger au cœur de l'enfer, de me remémorer tous les détails de la violence que j'ai pu vivre au quotidien. Certaines choses se m'étaient complètement sorties de la tête, et à force de parler, ça revient petit à petit. Et parfois, j'ai vécu des moments difficiles dans le partage. Puis il y a aussi cette crainte du regard des autres, parce que je n'ai pas envie de passer pour une victime, d'être juste résumé à ce fait-là. Je suis un survivant, certes, mais pas une victime. C'est vraiment le message que je veux partager.
Ok, merci beaucoup en tout cas. Et je vous propose une petite pause musicale avec Soleil mort des lois.
Éloi avec Soleil mort et on est de retour dans Orcaz. Alors pour la suite, je voulais vous poser une question. C'est, pensez-vous que les violences dans les relations intimes non hétéros sont souvent sous-estimées ou du moins ignorées par la société ?
Oui, je dirais que le mot juste, c'est plutôt sous-estimé. Je dirais pas qu'elles sont complètement ignorées. Parce qu'une large partie de la population, ce sont des personnes LGBT qui ont aussi été concernées. Mais socialement, c'est vrai qu'il y a une sorte de narration hégémonique vis-à-vis des violences conjugales, et l'imaginaire collectif nous renvoie directement à une image d'un homme qui bat sa femme, limite. Donc c'est une image de la violence conjugale un peu stéréotypée. C'est ce que les chercheuses britanniques Donovan et Esther ont appelé « The Heterosexual Story of Domestic Abuse ». C'est donc cette histoire hétérosexuelle qui est hégémonique et qui est dominante. Et je dirais que du coup, cette représentation-là, dans la tête des gens, y compris dans la tête des professionnels parfois, fait qu'on ne les reconnaît pas comme violence ou on ne les nomme pas en tant que telles.
Et donc je dirais qu'il y a beaucoup de stéréotypes aussi qui sont ancrés dans la population. En fait, un homme, on estime qu'il est capable de se défendre, qu'il ne peut pas subir de violence. Et on pense aussi que les relations entre hommes sont plus viriles. Je veux dire que la violence a fait vraiment partie du plaisir entre hommes, que dans leurs relations sexuelles, il y a plus de violence qu'on a toujours. Voilà, c'est vraiment des stéréotypes. Il y a des relations qui sont tout à fait, je veux dire, entre guillemets, classiques.
Ouais, pour revenir sur ce que tu disais, Cécilia, avec ce stéréotype, entre guillemets, des violences domestiques qui sont un homme qui bat sa femme, les violences interpartenariales, pour moi, sont ignorées dans la plupart, enfin voilà, en général, dans les relations LGBT et dans notre société. Parce que comment renaître quelque chose dont on ne connaît même pas l'existence, donc on ne sait même pas qui peut exister, et pire parfois, qui peuvent être normalisés par certains comportements. C'est-à-dire, par exemple, la jalousie, la passion, le dramatique. Alors, on entend souvent les relations lesbiennes, le drama queen, etc. Oui, mais vous, voilà, c'est très dramatique entre vous, c'est normal. Mais en fait, ce sont des violences aussi, et qui sont normalisées, et donc du coup, ne font de nouveau pas sonner la sonnette d'alarme, pardon, comme je parlais tout à l'heure des red flags en nous, parce que c'est des choses qu'on a appris et qui sont de nouveau des clichés qui sont dans la société, mais aussi intracommunautaires.
Ou au contraire, pour nuancer davantage, parfois il y a aussi des croyances militantes féministes qui voilà. Je parle plutôt du milieu lesbien dans ce cas-là, mais qui en fait font en sorte que on veut protéger la communauté et on n'en parle pas. Je me réfère notamment aux idéologies du lesbianisme politique, où on pense que du coup les relations entre femmes sont dépourvues de tout rapport de domination, sont dépourvues de violences, puisqu'il n'y a pas d'hommes dans l'histoire. Et ben du coup, dès qu'on se retrouve à vivre des violences et on est lesbienne, il y a aussi des petits soucis à vouloir l'admettre tout haut, puisque justement on veut aussi se distinguer des hétérosexuels qui ont affaire avec le patriarcat. Or, le patriarcat, c'est pas qu'une affaire d'homme.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on en avait discuté l'année passée dans l'interview d'il y a un an exactement. Donc, vous pouvez aller la retrouver et l'écouter. Et effectivement, ce qui se passe entre les lesbiennes, c'est qu'il y a une espèce de sororité. Et donc, du coup, c'est aussi se dire, en tant que personne sexisée, est-ce que je vais aussi accuser une autre personne sexisée qui déjà a subi le sexisme, potentiellement LGBT-phobie, potentiellement le racisme, etc. en plus. Et donc, il y a un peu ce truc de on se protège entre nous, on va protéger son agresseur, son agresseuse. Parce que voilà, on vit déjà, on est déjà stigmatisé et donc on ne va pas se sur-stigmatiser entre nous.
Et pour ne pas invisibiliser les personnes trans et non-binaires et toutes les autres orientations, on va peut-être parler vite fait aussi d'une spécificité des personnes trans et non-binaires justement, qui est que parfois ces personnes peuvent aussi se voir entravées dans leur parcours de transition, dans la relation avec leur partenaire, se voir morinommées comme on dit, donc le partenaire n'accepte pas la transition, donc utilise le dead name de la personne, ou bien n'utilise pas les accords et les pronoms corrects pour se référer à elle. Et des études québécoises montrent aussi, par exemple, le fait de cacher les médicaments ou les hormones liées à la transition ou d'autres outils, par exemple le packer pour montrer que voilà, pour simuler
un pénis,
voilà, on peut le dire à la radio, ou un binder pour par exemple aplatir le torse.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, comme on disait au début, les violences conjugales, intrapartenariales sont multiples et diverses et peuvent prendre des formes vraiment très différentes. Mais en fait, les spécificités des violences intrapartenariales dans les couples et les relations LGBTQIA+, sont encore plus diverses. Voilà, parce que justement, avec les diversités d'identité, parce que la complexité du fait des discriminations qu'on subit déjà dans la société, donc ça veut dire des personnes trans, etc., qui subissent de la transphobie au sein même de leur relation. Ça peut être des personnes gays, homosexuelles, whatever, qui aussi qui sont pas out, et donc du coup, on leur fait du harcèlement ou quoi. Voilà, il y a du chantage à les mettre out par rapport à leur famille, à leurs proches, à leur travail. Donc voilà, c'est de nouveau des formes supplémentaires de violence qui n'existent pas dans les relations, en tout cas dans les violences intrapartenariales hétérocis.
Ben pour suivre, je vous propose d'écouter un extrait du podcast qui recoupe un peu cette thématique dont qu'on vient d'aborder. Et c'est une des participantes qui n'est pas là aujourd'hui, qu'on va entendre là tout de suite dans cet extrait.
Comme je vivais dans un environnement où le fait d'être lesbienne était un danger, dans les environnements où je vivais, les sociétés, les cultures où je vivais. Ben, donc je devais cacher l'amour, mais du coup, je devais cacher la violence. Et ça, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, en fait. Donc j'ai dû me cacher pendant plus de 10 ans. On s'est caché avec mon ex, mais je devais cacher la violence parce que si la violence sortait en plein jour, ça voulait dire qu'il y avait de l'amour. Et ça pouvait être fait au péril de notre vie.
Ok, donc moi je pense qu'il est peut-être temps de parler des obstacles. On les a déjà un petit peu abordés, mais à votre avis, quels pourraient être les obstacles spécifiques auxquels les personnes LGBTQIA+ font face lorsqu'elles cherchent de l'aide pour échapper à une relation abusive? Et aussi, que pensez-vous que la société devrait faire pour mieux soutenir et protéger les personnes LGBTQIA+, qui vivent ou qui ont vécu des violences conjugales?
Je vais dire que moi, comme je vous expliquais tout à l'heure, ma relation de violence, elle date d'il y a 20 ans maintenant. Et donc, à l'époque, il n'existait absolument rien. Voilà, je m'étais présenté, je disais, voilà, je suis victime de violence avec mon partenaire. Il n'y avait pas un endroit où on pouvait m'accueillir. Les centres étaient réservés pour les femmes. Donc, je me retrouvais vraiment très isolé face à ma détresse, étant donné qu'en plus... Je veux dire, cette relation toxique avait fait le vide autour de moi, donc je n'avais plus mes amis, et ma famille avait pris ses distances aussi. Donc j'étais vraiment face à je veux dire, ma détresse. Et je veux dire, heureusement qu'il y avait l'SBL tel quel qui était là pour me venir en aide, parce que je n'avais vraiment rien pour m'aider.
Nous souhaitons que ce podcast s'adresse au plus grand nombre. C'est pourquoi nous vous invitons à compléter avec nous la liste suivante de possibles mises en pratique. Celles-ci ont pour objectif la mise en avant de solutions communes pour une responsabilité à la fois sociétale et collective. L'objectif est ici de faire reconnaître le phénomène, en parler, le nommer, le faire exister dans l'espace public. Au niveau communautaire, cela peut se traduire par la création de liens, des espaces où les personnes concernées peuvent échanger, en sécurité, comme ce podcast par exemple. Au niveau institutionnel, former et adapter les protocoles afin de pouvoir reconnaître et identifier ces violences, sans les minimiser parce qu'elles ne sont pas cis ou hétéronormées. Au niveau associatif et social, il est important de rendre visibles ces réalités. Cela peut passer par des campagnes d'affichage et ou d'actions de prévention. Enfin, au niveau politique, il est essentiel aujourd'hui d'intégrer les spécificités LGBTQIA+ dans toutes les politiques de prévention, de dépistage et de lutte contre les violences de genre. Ce combat est collectif. Il naît dans le silence qu'on brise, se nourrit des solidarités qu'on tisse et continue avec vous.
Voilà, et il existe également d'autres outils comme le violentomètre, le cycle de la violence conjugale. Tel quel a aussi créé un outil sous la forme d'une fiche pédagogique de l'épisode 1, le départ, et un outil de détection des violences, c'est de la violence. Tous deux sont disponibles sur le site du tel quel et sur le site internet c'est de la violence.be.
Alors à quoi ça peut servir de faire écouter ce podcast à votre avis?
Ben, je dirais principalement à conscientiser, à sensibiliser le grand public sur ces questions-là. Et aussi en tant que, là du coup je porte ma casquette de survivante plutôt, en tant que survivante je dirais c'est utile de faire écouter à des proches ou des amis ou à ma famille ou en général, voilà, savoir que les gens écoutent des témoignages d'histoires vraies pour qu'ils se rendent compte de la gravité de ces actes et ne les minimisent plus, ou pas en tout cas. Donc voilà, je dirais que faire écouter les podcasts peut servir à ça déjà, et aussi évidemment, pour aller plus loin, il pourra servir potentiellement à des professionnels pour se former et pour l'utiliser en tant qu'outil pédagogique justement, pour commencer à aborder la thématique et se former davantage.
L'écoute du podcast se veut également à destination des personnes concernées, avec un objectif de reconnaissance, ou en tout cas de manière peut-être un peu moins présomptueuse, avec un objectif de légitimation de leur vécu. Comme on a parlé plus tôt, une des parts les plus compliquées en tant que survivant et survivante de violences intrapartenariales, et d'autant plus dans une relation LGBTQIA+, est de pouvoir justement se reconnaître comme telle et de se sentir légitime dans son propre vécu, ses propres traumas, mais aussi du coup de sa propre résilience.
Oui, et donc moi je dirais, avec mes proches par exemple, ce podcast, il peut vraiment servir de base à un dialogue, une prise de conscience de la réalité que j'ai vécue dans cette situation de violence. Je me souviens, dans les premiers temps, j'essayais de parler à mes parents de ce que je vivais. C'est déjà vraiment pas facile de trouver des mots à poser, d'en parler. Et maman, sa réponse était toujours « ça va aller, t'inquiète pas ». Et mon papa, c'était plutôt « bon, si il continue comme ça, je vais venir le trouver ». Mais il ne s'est passé en fait rien du tout. C'est à chaque coup de téléphone, c'était la même chose. À tel point qu'à un moment donné, on n'a même plus envie d'en parler parce que c'est pas de là que l'aide vient, et c'est ce qui est le plus compliqué, parce que on attend de nos proches qu'ils soient les premiers à nous venir en aide.
Oui, c'est important ce que tu dis. Parfois, c'est déjà assez compliqué de se reconnaître en tant que victime sur le moment même, en tout cas de reconnaître qu'on subit ces actes de violence. Déjà vis-à-vis de soi-même, hein, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, en faire part à ses proches. Et effectivement, je pense, moi aussi, mon vécu résonne avec le tien. C'est quelque chose où, en fait, les proches réagissaient pas trop parce qu'il y avait les stéréotypes, etc., dont on a parlé plus tôt. Mais aussi parce, juste les gens n'étaient pas assez alarmés, ou alors c'était un peu des menaces en l'air, comme tu dis. Oui, mais on va faire quelque chose et tout, mais au final, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. Il n'y a pas un guide pour dire aux proches de personnes victimes de violences comment agir quand un proche... Mais maintenant, ça existe un petit peu plus. Alors, ça existait principalement pour les hétéros aussi, c'est pour les femmes victimes de violences. Et donc, maintenant, on essaye de faire un outil un peu plus inclusif.
Oui. Donc, on nous a aussi dit, quand on a fait l'épisode 1, l'épisode 2, que parfois les propos dans nos témoignages pouvaient être difficiles à entendre. Mais justement, je pense que ces propos sont très importants pour ne pas justement banaliser la violence et que tout le monde prenne la réalité des choses que les victimes de violence peuvent vraiment subir.
Après, des petits conseils pour des postures d'écoute, par exemple, si vous êtes des proches, peuvent être de ne pas essayer de solutionner le problème, ne pas blâmer la victime et ne pas la surresponsabiliser, en fait. Parce que parfois, et je pense notamment aux violences psychologiques, quand on est sous manipulation ou sous l'emprise d'un partenaire violent, on n'a pas tout à fait de la marge de manœuvre, on n'a pas tout à fait de la volonté personnelle et du pouvoir d'agir à ce moment-là. Justement, comme je disais tout à l'heure, on se rend compte qu'on a vécu des violences souvent à la fin de la relation, puisqu'on conscientise tout un tas de choses. Et ce serait une posture négative à adopter, c'est justement de essayer de trouver des solutions ou essayer de minimiser, essayer de invalider le vécu, ou en tout cas, une chose que j'ai beaucoup entendue, il faudrait que tu la quittes. C'est pas si simple de quitter une personne abusive, parce que justement, l'emprise, elle est là, elle est forte. Du coup, arrêtez de blâmer les victimes, et plutôt soyez solidaires avec elles.
Oui, merci pour ces mots. Et de nouveau, c'est vrai que les personnes qui sont victimes de violences intrapartenariales, a priori dans les relations LGBTQIA+, sont beaucoup plus surresponsabilisé, comme tu disais, que dans les relations cis-hétéro. Pourquoi ? Parce que là, d'un coup, le système patriarcal et toutes les discriminations disparaissent. Si c'est dans une relation lesbienne ou gay, là, on voit plus et c'est d'égal à égal, entre guillemets, alors que non. Et tous ces systèmes discriminants, etc., se jouent encore. Et donc, c'est ça la problématique aussi, c'est que, de nouveau, une fois de plus, les victimes sont... Voilà, la problématique est individualisée, alors que, de nouveau, c'est un problème systémique et les violences intrapartenariales sont systémiques, et y compris dans les relations LGBTQIA+.
Oui, justement, par rapport à ça, pour rebondir à ça, la construction des violences conjugales, c'est davantage faite sur cette idée genrée. Du coup, justement, le prisme du genre, c'est celui qui produit les rapports de pouvoir entre les genres et donc entre les individus. Mais les relations LGBT sont la preuve qu'il faut aller au-delà du genre, par exemple en adoptant des approches plus intersectionnelles et donc regarder les trajectoires des individus à travers un prisme d'oppressions multiples. Et la spécificité de l'intersectionnalité, c'est exactement celle-ci, de voir en fait que le croisement de plusieurs oppressions, des fois pèse plus lourd que, par exemple, une oppression qui dérive uniquement du genre. Je pense aux personnes racisées, je pense aux personnes LGBT, je pense aux personnes affectées par du handicap, etc., etc.
Alors, une question, je ne vais pas dire essentielle, mais quand même importante, est-ce qu'il y aura une suite à l'épisode 3 ?
Oui, tout à fait, Valérie. L'épisode 3 est en cours de réalisation. Il portera sur l'après, la reconstruction. Donc, voilà.
Et la question, évidemment, puisqu'on parle de podcast, où est-ce qu'on peut l'écouter, ce podcast ?
Donc, les épisodes du podcast Quel genre de violence sont disponibles sur le site de Telquel, donc www.telquel.be, et puis sur Spotify et Apple Podcasts. Et voilà, et je pense que c'est le moment de vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bye bye.
Orcase, une émission LGBT de l'association Telle Quelle en collaboration avec Radio Campus.